Welcome everybody, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On va parler cette semaine de Donald Trump face à la justice. Cette fois, ça y est, le processus est en marche. Est-ce que ça va changer la course présidentielle? Est-ce que ça va empêcher l'ancien président de récupérer les clés de la Maison Blanche? C'est le thème de ce 12e numéro des clés de la Maison Blanche. Bonjour Lionel.
Salut Thomas, ça va?
Oui, ça va. Bon, prêt à parler justice, procès aujourd'hui?
Ah ben oui, quand on parle Donald Trump, on parle souvent justice.
Bon, on a été obligé de le faire. On s'est dit, est-ce qu'on va réussir à passer outre le thème Trump au tribunal? Mais en fait, c'est...
Ah, c'est compliqué. À partir du moment où on est sur le processus électoral, il y a forcément interférence entre la justice et la politique. C'est vrai que, est-ce qu'on peut apporter des choses originales? D'autant que pour l'instant, les débats n'ont pas commencé, mais il y a quand même pas mal de choses à dire. C'est vrai que c'était inévitable.
Eh bien justement, les débats, ils vont commencer dès ce lundi, donc pour le procès pénal de Donald Trump à New York, procès dans lequel il est soupçonné d'avoir acheté le silence d'une ancienne conquête, une ancienne actrice porno, Stormy Daniels. Alors Lionel, le thème est souvent galvaudé, mais est-ce qu'on peut parler d'un procès historique?
Oui, c'est vrai que j'aime pas trop dire historique parce que tout est historique chaque semaine, mais là quand même c'est quand même, on peut le dire parce que c'est un ancien président des États-Unis qui comparait au pénal, c'était jamais arrivé et c'est absolument énorme. Alors on a un peu tendance à l'oublier parce qu'il y a tellement d'affaires autour de Donald Trump, il y a tellement de bruit de médiatique autour de ce qui fait que bon voilà, les choses passent comme ça. Alors je dis pas que tout le monde minimise ça, mais peut-être que avec un autre président, ancien président des États-Unis, ça aurait pris encore plus d'importance. Alors c'est vrai que c'est pas l'affaire non plus la plus retentissante hein, parmi les affaires qui concernent Donald Trump. Moins importante sur le fond, par exemple, que les tentatives de déstabiliser les élections de 2020. Alors, avant que Donald Trump, comme vous le disiez, soit accusé d'acheter le silence de Stormy Daniels, enfin en tout cas, c'est pas tant ça qui lui est reproché, c'est la première étape de la fusée, mais c'est en fait d'avoir maquillé les comptes. C'était juste avant les élections de 2016, et c'est le fait d'avoir falsifié donc des documents comptables pour le paiement, donc qui était de 130 000 $, en gros d'avoir fait passer ça sur des frais juridiques. Et aux États-Unis, on ne plaisante pas avec ça. Donald Trump crie à la manipulation, à l'interférence électorale, ce qui est assez savoureux de sa part hein, de crier à l'interférence électorale, sachant que c'est en gros ce qu'on lui reproche le plus. Le procès devrait durer environ 6 semaines. S'il est condamné, alors ça aura un impact hein, sur certains électeurs, les électeurs indépendants sans doute, peut-être aussi les républicains les plus modérés, qui hésiteront peut-être hein, à voter pour quelqu'un qui a été condamné par une cour criminelle. S'il est relaxé, en revanche, ça va sans doute nourrir sa stratégie de victimisation et peut-être lui donner un boost pour sa campagne. On ne sait pas, rappelons que il faut que les 12 jurés votent à l'unanimité pour qu'il soit condamné.
Oui, parce qu'on se rappelle finalement que la renaissance de Donald Trump, on l'oublie souvent, mais il y a un an et demi, Donald Trump, il était presque à terre après les midterms. Et c'est il y a un an. Il y a un an, c'est le début de l'enquête et de l'ouverture du procès avec le procureur de New York qui vient faire sa conférence de presse, les voitures, les hélicos qui suivent Donald Trump. C'est de là que revient la popularité de Donald Trump quand même.
Oui, et puis il fait du judo, Donald Trump. C'est-à-dire que quand il y a des affaires qu'il concerne, eh ben, il s'en sert. Il sait très bien s'en servir. Il électrise sa base, on l'a dit plusieurs fois. Effectivement, on en fait un personnage hors norme. T'as raison de rappeler la couverture médiatique des chaînes d'info, son avion qui décolle, l'hélicoptère, sa voiture, c'était totalement fou en fait. Alors c'est vrai que c'est compliqué de trouver la bonne mesure sur les couvertures médiatiques parce que c'est quand même un ancien président face à la justice, mais t'as raison, c'est ça en fait qu'il a remis en selle en quelque sorte.
Alors justement, tu avais commencé à parler des jurés qui doivent voter à l'unanimité, il va y en avoir 12. Leur sélection a été un casse-tête, apparemment.
Bah oui, parce que déjà, c'est toujours un peu compliqué de sélectionner des jurés. Ils sont censés être impartiaux. Et c'est compliqué quand même de trouver aux États-Unis quelqu'un qui n'a pas d'avis sur Donald Trump, qui ne connaît pas ses affaires. C'est ça le principe d'un juré, hein, d'une sélection d'un jury, c'est de trouver des gens qui n'ont pas d'a priori, que ce soit positif ou négatif. Et concernant Donald Trump, qui est quand même un personnage clivant par excellence, eh bien, c'est compliqué. Il y a plus de 90 personnes qui ont été auditionnées, à qui on a posé une quarantaine de questions, par exemple comme celle-ci. Comment vous informez-vous? Suivez-vous Donald Trump sur les réseaux sociaux? Ou l'avez-vous fait par le passé? Ou bien alors, à l'opposé, êtes-vous abonné à des newsletters d'organisations anti-Trump? Alors, évidemment, c'est un processus de sélection. La défense et l'accusation, vous avez sans doute vu ça dans des séries ou dans des films, eh bien, les récusent. Éventuellement, s'ils estiment que la personne n'est pas impartiale. Et donc, au final, on a 12 personnes qui ont prêté serment. Il y a aussi 6 suppléants. Le juge Merchan qui préside au débat a ordonné que l'identité des jurés reste confidentielle. Évidemment, c'est important parce que on veut pas qu'il y ait une pression quelconque de supporters de Trump ou d'anti-Trump. Donc, ce que l'on sait en revanche, parce que les journaux, les médias américains s'y sont intéressés, ils ont fait un portrait robot de certains jurés. 7 hommes et 5 femmes, tous sont des habitants de Manhattan. Le New York Times précise, ils sont noirs, asiatiques, blancs, ils travaillent dans la finance, l'éducation, la santé et le droit. Certains vivent à Harlem, Chelsea, dans l'Upper East ou l'Upper West Side. On sait par exemple que le juré 1, parce qu'on les appelle comme ça, juré 1, juré 2 jusqu'à juré 12. Le juré 1 travaille et réside à Harlem. Il s'informe via les chaînes de télévision Fox News et MSNBC. Donc, on va dire les deux pôles opposés du spectre médiatique. Le juré 1, c'est important parce que il y a toujours une sorte de leader, en fait. Donc, c'est pour ça que son portrait a été fait aussi. Et donc, ce dernier indique avoir entendu parler de certaines autres affaires pénales de Donald Trump, mais il souligne ne pas avoir vraiment d'opinion au sujet de l'ancien président. Mais en tout cas, ça y est, l'équipe, en quelque sorte, de juré est composée.
Alors, on a vu des images assez impressionnantes de Trump qui arrive dans le tribunal, qui s'assoit toujours avec le regard assez impressionnant où il est en train de défier le juge. Et d'ailleurs, il a évidemment fait tourner cette photo sur les réseaux sociaux.
Il le travaille, ce regard, je pense.
Oui, ça a l'air d'être bien travaillé, effectivement, avec les coachs en communication. Mais alors, ce que plusieurs observateurs ont noté, c'est qu'il a quand même été obligé pendant des heures et des heures d'écouter silencieusement, assis, ce que les Américains pensaient de lui, finalement.
Oui. Et puis il n'a pas trop l'habitude et il n'a pas dû apprécier, hein, quelques extraits, hein, de personnes, de jurés, donc, qui ont été questionnés. Il semble égoïste et intéressé, a déclaré une femme. La façon dont il se comporte en public laisse à désirer, selon une autre personne, ou bien encore sa rhétorique négative et ses préjugés en font un homme nuisible. Donc il en a pris un peu plein la figure. Et c'est vrai que c'est un changement parce qu'il a l'habitude de passer ses journées dans une bulle, en fait, dans un cocon, où quand il sort, c'est souvent à l'extérieur de Mar-a-Lago ou en meeting où tout le monde l'acclame et le prend presque pour un dieu. En tout cas, il est adulé. Il va passer les prochaines semaines soumis à des règles très strictes, hein, qu'il prive de tout contrôle, en fait, et notamment sur ce qu'il est autorisé à dire. Et du coup, il est l'objet de moqueries. Alors, pour lui, c'est presque un cauchemar, selon certains analystes. Il peut pas contrôler le scénario, en fait. Ouais. Et c'est ça qui peut l'agacer, puisqu'en général, il vit à l'abri des critiques. Alors, après avoir quitté la Maison Blanche, il s'était installé à Mar-a-Lago. Donc, là aussi, c'est une bulle, hein, Mar-a-Lago. C'est un club très privé. Il a un personnel qui est dévoué. Les autres membres de Mar-a-Lago, parce que Mar-a-Lago, il n'y a pas que Donald Trump, hein, mais les autres membres aussi sont des fans, en quelque sorte, et ils dépensent même des dizaines de milliers de dollars pour être près de lui. En tout cas, ça a commencé déjà avec cette sélection, mais Donald Trump va être dans une autre vision de l'Amérique. Il va prendre un autre pouls qu'il a l'habitude de prendre.
Alors, en termes pratiques, vraiment, pour revenir sur l'élection, qu'est-ce que ce procès va changer dans la campagne ?
Alors, ça va lui faire perdre du temps, évidemment, parce que pendant qu'il est dans les tribunaux, parce qu'il doit y être, eh bien, il ne peut pas faire campagne. Il va se concentrer sur les week-ends, ou voir les soirées, mais par exemple le week-end dernier, samedi soir, il devait être en Caroline du Nord. Bah là, pas de bol, c'est une tempête qui l'a obligé à annuler le meeting. Il a dit aussi qu'il ferait sans doute un meeting très tardif, enfin en tout cas tardif, après une journée de tribunal pas très loin de New York. Mais forcément, ça bouscule son agenda politique, sa campagne. Ce samedi, donc, il a annulé la Caroline du Nord, alors que c'est un état très important pour lui. En 2020, il avait gagné avec moins d'un point et demi d'avance face à Joe Biden. Joe Biden, qui lui s'y est rendu deux fois récemment, Kamala Harris quatre fois. Donc voilà, c'est l'un des états qu'on va regarder. Il n'a pas pu y aller, alors il a promis qu'il referait un meeting. Mais ça souligne quand même la difficulté pour l'ancien président de jongler avec ses problèmes juridiques et sa campagne électorale. Un meeting, je fais une petite parenthèse, ça a été noté sur les médias américains où apparemment une dizaine de membres des Proud Boys ont été vus juste avant le meeting, avant qu'il soit annulé à l'extérieur. C'est un groupe d'extrême droite, une sorte de milice, mais assez violente. Et voilà, l'équipe de campagne de Donald Trump botte un petit peu en touche, mais en tout cas c'est quelque chose qui a fait parler hier soir.
Bon, alors voilà pour la page Trump. Mais Lionel, tu voulais aussi faire un point sur Kennedy, Robert Kennedy, qui est donc aussi candidat. On en a parlé dans les différents épisodes et il revient comme ça un peu tout le temps, mais c'est intéressant d'en parler parce que ça nous permet aussi de sortir de la...
Oui, parce que c'est un Kennedy, donc ouais. Dès qu'on cite le nom Kennedy, forcément ça parle, ça fait parler. En plus, lui, il va peut-être jouer les troubles faits, on y reviendra. Et en fait, la famille Kennedy apporte son soutien à Joe Biden pour un second mandat et pas à Robert Kennedy Jr. Alors le clan s'est réuni, c'est notamment c'est Kerry Kennedy qui a fait cette déclaration au nom de 15 membres de la famille en disant, voilà, on intensifie notre engagement dans la campagne de Joe Biden alors que les démocrates ont besoin de soutien. Et c'est vrai que les démocrates craignent que la candidature de Robert Kennedy Jr. ne favorise Donald Trump. L'ancien député Joseph Kennedy, lui, neveu du candidat indépendant, estime que la candidature de son oncle est, je cite, une menace pour le pays, et il poursuit, j'aime ce pays et les valeurs que je souhaite défendre, et Robert Kennedy, selon lui, n'y participe pas.
Est-ce qu'on ne sait pas s'il est encore invité au dîner de famille, par contre, ça.
Je doute. Hein. Ah. Alors après, je pense qu'il y a des contacts, hein, forcément, il s'appelle. Alors lui, il dit, mais oui, mais il y a aussi d'autres membres de la famille qui me soutiennent. Alors, il ne précise pas. Alors, je crois que sa belle-fille participe à sa campagne. Mais bon, c'est sa belle-fille, donc c'est un petit peu... C'est pas vraiment le clan, le noyau du clan. Et donc ce dernier, il a dit sur X, j'ai entendu dire que certains des membres de ma famille soutenaient Joe Biden et je suis heureux qu'il soit politiquement actif. Voilà, il dit que c'est une tradition familiale, il dit que nous, on est divisés dans nos opinions, mais on est unis, je cite, dans l'amour que nous avons les uns pour les autres.
Ça va alors.
Ça va, donc finalement ils peuvent dîner ensemble, mais forcément c'est ennuyeux pour lui. Alors il ne s'attendait pas à être soutenu, hein. La famille Kennedy... une famille toujours très politique, hein. Il y a Joe Biden a nommé plusieurs membres ambassadeurs à l'étranger, notamment en Europe, et Joe Biden donc qui forcément est satisfait de ce soutien, c'est toujours important pour lui. Il a dit que c'était un honneur incroyable d'avoir le soutien de la famille Kennedy, et puis on l'a vu sur des photos de la famille sur trois générations, donc qui posait avec le président. Mais c'est vrai que Robert Kennedy, on en a déjà parlé, ça peut être une épine dans le pied électoral de Joe Biden, et c'est tout sauf anodin aux États-Unis un soutien comme celui-ci. Voilà pour le cette partie, on va dire, Kennedy-Trump, des familles politiques, des clans. On voulait quand même, tu voulais revenir, Thomas, en écho à l'épisode précédent, revenir sur les dépenses des campagnes électorales, parce qu'il y a un rapport qui a été dévoilé très peu de temps. Et qu'est-ce qu'il dit, ce rapport? Parce que c'est toujours quelque chose d'essentiel, hein, c'est un nœud dans les campagnes.
Bah, déjà, on a la confirmation que Joe Biden dépense bien plus que Donald Trump, ça c'est sûr. Alors, ce que disent les médias américains, c'est que c'est un classique quand on a un président qui est candidat à sa réélection, c'est toujours lui qui dépense plus. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien de classique dans cette élection de 2024. Moi, j'aime toujours rappeler quand même ce contexte. C'est le président sortant qui affronte son prédécesseur pour la même édition, pour la même élection qu'il y a 4 ans. D'en plus, dans un contexte avec les affaires judiciaires de Donald Trump, on en a parlé dans cet épisode, il doit quand même répondre à un procès pénal et à d'autres chefs d'accusation, notamment concernant la contestation des résultats de l'élection de 2020. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on note un peu un point de départ, une sorte de coup d'envoi vraiment de la machine à dépenses pour Joe Biden. Ça a été son discours sur l'état de l'Union. Vous savez, c'est ce discours où le président est devant le Congrès, et il présente son bilan et les perspectives, évidemment, sur l'avenir et sur ses projets. Le 7 mars dernier, c'était le dernier de Joe Biden en tant que président pendant son mandat.
Il joue beaucoup d'ailleurs parce que on attendait, c'était une période où il était beaucoup critiqué sur son état physique, voire mental. Il a été plutôt bon. Donc effectivement, comme tu dis, c'est un moment important pour lui.
Qui a été assez suivi en plus à la télévision. Donc c'est vraiment ce moment-là qui a vraiment compté pour Biden, où la machine s'est mise en route, les dépenses ont explosé. Et depuis ce moment-là, entre Biden et Trump, on est sur un rapport de 1 à 8 en termes de dépenses. Donc ça vous donne quand même une idée de l'écart. Alors évidemment, Donald Trump, il est plombé par ses déboires judiciaires parce que selon les informations de son comité de soutien, il a dépensé autant en frais de justice que pour faire campagne. Et donc ça, forcément, ça pour lui, c'est vraiment une épine dans le pied parce que ça l'empêche justement de développer les fameuses annonces publicitaires dans les états clés. Tu parlais de la Caroline du Nord tout à l'heure, 1,5% d'écart. C'est justement là, c'est là que l'argent doit jouer énormément. Mais pour revenir aux dépenses de ces derniers mois, je voulais simplement vous citer une phrase que j'ai lue cette semaine dans le Washington Post. C'est le journaliste qui écrit « À regarder les dépenses sur les activités de campagne sur le dernier mois, on pourrait croire que Biden et Trump ne concourent pas à la même élection ». Tellement l'écart est grand. Parce qu'en gros, Trump, il a dépensé le mois dernier presque autant qu'un candidat démocrate de la Chambre des représentants, d'un district un peu clé, disputé, mais c'est quand même assez impressionnant.
C'est après, c'est vrai qu'il fait sa campagne, sa pub lui-même, en fait. C'est de la contre-pub, mais c'est de la pub aussi.
Alors justement, donc tu parles de la publicité. Je voulais aussi expliquer, quand on parle des dépenses de campagne, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la publicité. Donc la production à la fois de publicité, l'achat d'encarts publicitaires et d'espaces à la télé ou à la radio. Ça passe aussi évidemment par la rémunération forcément des équipes de campagne à travers tout le pays et par le paiement de cabinets de consultants ou de conseillers politiques. Donc pour revenir sur ce grand écart entre Biden et Trump, le mois dernier, Biden a dépensé 29 millions de dollars, dont 22 millions consacrés à la publicité, donc 22 sur 29, vous voyez l'importance de la publicité, notamment dans 7 swing states pour Biden. Et pour Donald Trump, on parle de 3,7 millions dépensés par rapport aux 29 millions de Joe Biden. C'est là que l'écart est quand même énorme. Et c'est pour ça qu'on s'attarde autant et c'est pour ça qu'on voulait faire aussi cet épisode sur le procès de Trump. Parce que ça montre quand même l'impact qu'ils ont sur la campagne. Tu as commencé à en parler. Peut-être aussi de façon plus indirecte, est-ce que ce procès finalement sur cette affaire Stormy Daniels va vraiment faire changer d'avis ceux qui vont aller voter en novembre prochain? Tu parlais des indépendants, c'est certainement vrai. Mais est-ce que ça n'a pas plus d'influence finalement de façon indirecte sur la manière dont la campagne va s'exercer? C'est surtout la question. Et tu as fini en parlant de Robert Kennedy, ben, je voulais dire un mot justement sur les dépenses de Robert Kennedy parce que lui aussi fait campagne. Il y a 2 semaines, on avait dit que Nicole Shanahan l'avait rejoint dans son équipe en tant que colistière, donc qui serait potentiellement sa future vice-présidente. Elle est expérimentée, elle a de l'argent. Alors les chiffres n'ont pas été communiqués, mais les médias américains expliquent qu'elle a donné une bouffée d'oxygène à Kennedy, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir dépensé exactement ce qu'il a récolté. Donc il a une balance à l'équilibre. Mais une balance qui pourrait bientôt être insuffisante, tout simplement parce qu'on se questionne sur la possibilité d'avoir un bulletin Kennedy dans tous les États. Je te rappelle, on avait parlé de Kanye West qui avait été candidat et qu'en fait, tous les Américains ne pouvaient pas forcément voter pour lui.
Oui, parce que chaque État a ses règles pour pouvoir valider un candidat à l'élection présidentielle.
Exactement. Et donc, et ces règles, parfois aussi, elles parlent de... Est-ce que ce candidat, avec la notoriété, avec le temps d'antenne, est-ce qu'il est considéré comme un candidat éligible ? Alors, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de gros donateurs dans le comité de soutien de Kennedy, c'est que des petits donateurs. Il n'arrive à récolter qu'entre 1 et 2 millions de dollars par mois. Donc, souvenez-vous des chiffres de tout à l'heure, ça fait pas beaucoup. Mais ce qui est certain quand même, parce que là, on a le prisme, évidemment, des chiffres, il ne faut pas non plus minimiser la campagne de Kennedy, parce que sa percée politique, elle est tout de même réelle depuis le coup d'envoi de cette élection. Il arrivera certainement à jouer les troubles faits dans certains États disputés où il pourrait grappiller des voix. Mais à l'heure actuelle, on peut affirmer quand même qu'il n'est pas en mesure d'espérer mieux que ça, c'est-à-dire de venir vraiment défier les deux candidats crédibles de cette élection.
Alors moi, ce qui me surprend quand même, c'est sur le peu d'argent soulevé par Donald Trump, parce qu'il en soulève quand même beaucoup. Alors, pour être honnête, j'ai pas vu l'étude, donc je me pose des questions. Alors, est-ce qu'ils en gardent aussi sous le coude, là, en se disant que, comme on va le voir tous les jours lors du procès, est-ce que c'est le moment de faire de la pub ? C'est pas forcément, effectivement, stratégiquement le bon moment. Est-ce que Nikki Haley aussi, le fait qu'il y ait beaucoup de donateurs pour Nikki Haley, ça joue aussi pour lui, enfin, contre lui, en tout cas, pour cette manne financière? Donc faut voir, c'est vrai que le rapport paraît comme ça assez fou, ce rapport de 1 à 8 me paraît assez dingue. Bon, je pense quand même qu'il va en avoir un peu sous le pied, mais effectivement peut-être, et puis il y a ses frais de justice, tu disais, c'est toujours un peu compliqué, on ne sait jamais si l'argent des donateurs va à ses remboursements de frais de justice ou à sa campagne électorale, ça va vers les deux branches a priori.
Voilà pour ce point donc sur l'actualité de la campagne américaine. Lionel, tu veux rajouter quelque chose ou on a fait...
Eh ben non, on a fait le tour, je crois.
On a fait le tour.
On pourrait toujours rajouter des choses, mais à un moment, il faut se dire au revoir.
C'est vrai, ouais. Il faut se dire au revoir. Mais on vous donne rendez-vous, évidemment, pour le prochain épisode des Clés de la Maison Blanche. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode, à proposer aussi des idées de sujets parfois. Ça peut être intéressant d'échanger avec vous. En tout cas, on espère que vous avez aimé cet épisode. Partagez-le, envoyez-nous vos commentaires et on se retrouve...
Exactement.
Au prochain épisode.
Bye bye. Bye.